Radio Kapi. Il est midi pile à Kinshasa, 13h à Goma, au Nord Kivu. Bienvenue, voici les titres de ce journal. Nord Kivu, la deuxième ligne moyenne tension de la société Virunga Energy, a été touchée par des projectiles à Kibumba, en territoire de Nyiragongo. Du coup, une grande partie de la ville de Goma est plongée dans le noir depuis hier dans la soirée. Virunga Energy alerte dans son communiqué sur les conséquences et impact de cette coupure d'électricité. Et puis, cette autre sonnette d'alarme en rapport avec la santé de Salomon Idi Kalonda qui se dégrade de plus en plus. Justicia Icebell et Azado pensent qu'il importe qu'il aille se faire soigner et qu'il revienne répondre à la justice sur des faits qui lui sont reprochés. Les deux organisations de défense des droits de l'homme l'ont fait savoir hier lundi à Lubumbashi au cours d'une conférence de presse. La tenue des élections le 20 décembre prochain s'avère irréversible. C'est le rapporteur adjoint de la CENI qui l'a dit, tout en saluant les avancées dans la formation des formateurs électoraux, mais aussi dans l'acquisition du matériel électoral. Paul Mouindo Moulemberi est l'invité de ce journal. Merci d'être avec nous. Pierre Diassinoa assure la mise en onde devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonjour. La société Virunga Energy sollicite des belligérants l'accès dans la zone de combat en vue de mener les travaux de réparation dans leurs installations à Kibumba, en territoire de Nyiragongo, théâtre d'affrontement depuis plusieurs jours. C'est pour éviter des dégâts collatéraux que cette coupure entraînera sur tous les plans. En effet, la deuxième ligne moyenne tension de cette société a été touchée hier par des projectiles. Une situation qui a plongé une grande partie de la ville de Goma dans le noir depuis hier soir. Dans son communiqué à ce sujet, Virunga Energy alerte sur les conséquences et impact de cette coupure d'électricité, notamment dans des hôpitaux et autres services publics. Denise Loukesso est en ligne de Goma.
La situation est grave. Il n'est pas possible de fournir l'électricité sur la ville de Goma, déclare Virunga Energy. C'est ainsi que Goma a passé la nuit dans le noir. Des projectiles entre les groupes armés locaux et les M23 ont touché les installations de cette société d'électricité, endommageant ainsi la moyenne tension. Dans un communiqué publié hier à cet effet, la société Virunga Energy dit n'être malheureusement pas en mesure de rétablir l'électricité. Cette société attire l'attention sur les conséquences sérieuses humanitaires que cette coupure d'électricité occasionnera. C'est notamment l'impossibilité d'alimenter les pompes de la ville distribuant l'eau courante à la station de captage des Keshiro et du camp des déplacés de Bouchagara, mais également l'impossibilité de fournir l'électricité aux hôpitaux dont peut possiblement découler des pertes de vies humaines. Virunga Energy dit être incapable de dire quand ses équipes auront accès aux zones endommagées par les affrontements. C'est pourquoi elle sollicite l'accès aux belligérants afin de procéder aux réparations et rétablir l'électricité. Pendant ce temps, la population de Goma doit prendre son mal en patience. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Et toujours au Nord Kivu, une accalmie précaire est observée depuis ce mardi matin dans les zones de combat qui opposent les groupes armés locaux au FRDC contre les groupes armés locaux et les FRDC aux rebelles du M23, notamment sur l'axe Kibumba et dans le Massissi. Pendant ce temps, le chef d'état-major général de FRDC est arrivé hier soir dans la ville de Goma en mission d'inspection, selon le service de communication de l'armée. En bref encore, le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est entretenu séparément avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le président rwandais, Paul Kagame. Avec les deux présidents, le secrétaire d'État a discuté de la situation explosive et de l'aggravation de la crise humanitaire le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC. Le secrétaire d'État a plaidé en faveur d'une solution diplomatique aux tensions entre les deux pays. Il a exhorté chaque partie à prendre des mesures pour désamorcer la situation, notamment en retirant les troupes de la frontière. Pendant ce temps, au Kwilu, les réseaux Pona Congo a organisé hier lundi un sit-in devant l'hôtel de ville de Kikwit pour fustiger la montée de la criminalité dans cette ville. Selon les membres de cette structure citoyenne, il ne se passe pas un mois sans assassinat à Kikwit. Le tout dernier cas est celui d'un étudiant abattu par des inciviques la semaine dernière, juste après la collation des grades académiques. Ces manifestants ont brandi des affiches et calicots sur lesquels on pouvait lire « Trop c'est trop avec l'insécurité à Kikwit ». Nous voulons la paix et la sécurité. Justice pour l'étudiant Zandou Chora. Ils demandent des enquêtes approfondies pour arrêter les auteurs de ces actes de barbarie. Quelques membres des Pona Congo se sont exprimés au micro d'Irène Mboma.
Nous sommes venus présenter notre ras-le-bol au maire de Kikwit face à l'insécurité grandissante qu'on sommes en train de vivre dans la ville depuis un certain moment parce qu'il y a des tueries par-ci par-là, des actes de barbarie qui sont perpétrés par le jeune communément appelé ces deux bases. Le dernier en date d'ailleurs de la semaine passée où un étudiant qui revenait de sa collation de grade a été lâchement tué au niveau de la carrière par le jeune Jean qui portait deux machettes. Alors face à cette insécurité grandissante, nous avons pris la résolution en tant que des citoyens congolais de pouvoir rencontrer le maire de la ville et lui présenter notre mécontentement pour qu'il puisse trouver solution face à cette situation désastreuse. Voyez déjà que la période de la campagne s'approche, mais nous posons la question, comment est-ce que les différents candidats vont devoir battre leur campagne tant qu'il n'y a pas la sécurité?
Ça fait un bon bout de temps qu'il y a des menaces, qu'il y a des tracasseries, qu'il y a des tueries dans nos quartiers. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement impossible de se promener pendant la nuit. Quand il est 18h, c'est impossible de sortir. Ce qui nous touche plus profondément, c'est l'indifférence des autorités locales. C'est ainsi que nous sommes venus ici pour rencontrer le maire de la ville.
Et signalons que ces membres du réseau Pona Congo n'ont pas malheureusement rencontré le maire de la ville, absent de son bureau. Justicia Asbel et Lazado tirent la sonnette d'alarme sur la santé de Salomon Idi Kalonda qui se dégrade de plus en plus. C'est des organisations de défense des droits de l'homme l'ont fait savoir hier lundi à Lubumbashi au cours d'une conférence de presse. Pour Jean-Claude Katende, président de Lazado, il importe qu'il aille se faire soigner et qu'il revienne répondre à la justice sur des faits qui lui sont reprochés. Il explique au micro de Jean Gandou.
Étant à Lubumbashi, il était de mon devoir, surtout que M. Idi Kalonda est très connu ici, d'informer non seulement l'opinion nationale, mais aussi l'opinion provinciale. Qu'on puisse savoir qu'un des notables de cette province est détenu de manière injuste à Kinshasa et que ma présence ici permet à ce que nous puissions prendre cette position. D'autant plus qu'il y a quelques semaines à Kinshasa, nous avions déjà pris position ensemble avec Justice Asbel pour dénoncer les injustices dont M. Kalonda est victime aujourd'hui. Et nous pensons que dans la situation actuelle, ce qu'il est important de faire de la part de la justice, parce que c'est une justice qui est au service de tous les citoyens, c'est de pouvoir permettre à ce que M. Idi Kalonda aille se faire soigner dans un endroit qui permet à ce qu'il soit pris en charge conséquemment et qu'après ces soins, qu'il revienne rendre des comptes à la justice, mais surtout une justice indépendante qui n'est pas manipulée par les hommes politiques ou par d'autres couches de la population congolaise.
Fin le week-end dernier à Lubumbashi de la formation de 20 femmes candidates aux élections municipales de 4 provinces, notamment des provinces du Kasaï Oriental, Lomami, Okatanga et Lualaba. Cette formation a été organisée par l'ONG Democracy Reporting International, DRI, avec l'appui financier de l'Agence allemande de la coopération internationale, GIZ. 10 femmes du Kasaï Oriental et de Lomami sont rentrées ce lundi en Boujimaï. D'après Gertrude Ndaya, formatrice, le but de ces assises était de permettre aux femmes candidates d'être encadrées avant, pendant la campagne électorale et après les élections par d'autres femmes de l'Afrique, de l'Ouest et de l'Europe, choisies notamment comme mentors par les organisateurs de ces travaux. Gertrude Ndaya se retrouve au micro d'Esther Ndalafina.
Elles ont reçu d'abord une première formation théorique à Mbujimaï. Ensuite, nous sommes allés à Lubumbashi. En troisième position, nous avons regroupé les femmes qui avaient été formées à Mbujimaï, 10, et 10 autres qui avaient été formées à Lubumbashi. Elles ont dû bénéficier de l'expérience d'autres femmes, congolaises pour la plupart, qui venaient d'ailleurs. Mais il y a eu aussi les échanges d'expériences avec des femmes européennes et des femmes de l'Afrique de l'Ouest qui sont également dans les institutions locales. À cette occasion, nous avons pu donner à chaque femme candidate congolaise une mentor. Les mentors doivent accompagner les femmes candidates. D'abord, elles ont commencé par partager l'expérience. Ensuite, élaborer leur plan stratégique de campagne. Elles ont fait un programme d'accompagnement tout le long du processus. Elles ont été aussi capacitées dans la levée de fonds. Toutes les mentors n'ont pas pu venir à Lubumbashi. Elles ont eu des contacts avec leurs mentorés par vidéoconférence.
Et dans la province du Maniema, la Caritas Développement Kindu, à travers son bureau de justice EP, a ouvert hier lundi à Kindu un atelier pour le renforcement des capacités sur l'approche de la paix et des préventions des conflits en période électorale. Ces assises ont été lancées par le gouverneur intérimaire, prendront 6 jours et réunissent différentes couches de la population. Objectif, favoriser la cohésion sociale et créer un climat apaisé pendant la période électorale et post-électorale. Suivez plutôt un extrait de ce message sur la paix et la non-violence pendant la période électorale de Mgr François Abeli Mouya, évêque du diocèse de Kindu. Des propos sélectionnés par Florence Kizalunga.
En ce moment d'élection, tout discours incitant à la haine, à la provocation et à la division tribalo-ethnique doit être rejeté. C'est pourquoi nous invitons les candidats à tous les degrés du scrutin, ainsi que leurs partisans, à favoriser un climat de paix, de cohésion et d'unité avant, pendant et après les élections, car l'avenir de notre province et la quiétude de tous en dépendent. Chers candidats, promouvoir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique que pendant les échéances électorales de décembre 2023 est la seule chose qui puisse épargner à notre chère et belle province du Maniema de sombrer dans une spirale de violence et conflits inutiles. Ainsi, j'invite tout le monde à ne pas céder à la manipulation et à l'instrumentalisation politicienne à travers les actes de violence et les discours de haine qui ont tendance à s'installer aujourd'hui dans notre province. Tous, nous portons une grande responsabilité devant l'histoire. Pour ma part, nous devons tous contribuer à l'apaisement du climat électoral dans l'ensemble de la province du Maniema.
Dans la province de la Tchopo, le paysage de Yangambi vient de se doter d'un plan de gestion quinquennale de la faune, PGF en sigle. Ce plan a été dévoilé au début du week-end dernier au terme d'un atelier organisé à Yangambi par les CIFOR, le Centre de recherche forestière international. Toutes les parties prenantes y ont pris part. Le ministre provincial de l'Environnement et des développements durables, Patrick Valencio-Assoumani, a présidé la cérémonie officielle de validation de ces documents au nom de la gouverneure de province. Quelle est l'importance du plan de gestion de la faune? Des explications avec Jacques Moukonkolé.
Disons d'abord que depuis 2017, des études financées par l'Union européenne et réalisées par le CIFOR à travers le projet Forest font état de la présence des espèces fauniques emblématiques comme le chimpanzé, le pangolin, le buffle et la musaraigne éléphant. Cependant, certaines recherches alertent sur l'intensification de la chasse et le nombre croissant des chasseurs, aussi bien dans la réserve des biosphères de Yangambi que dans les alentours. En conséquence, la faune de la réserve des biosphères de Yangambi s'est appauvrie d'après les inventaires. Un communiqué de presse de la cellule de communication du CIFOR indique que la rareté des espèces locales fait partie des défis. Aujourd'hui, la réserve est dominée par les rongeurs et les petits ongulés. Sagesse Nziavake, experte du CIFOR, souligne que la vulgarisation du PGF passe par la gouvernance, la législation et la dénonciation des crimes environnementaux. La promotion du changement des comportements ainsi que la mise en place des micro-projets sont également recommandés. Notamment des activités alternative à la chasse et à la vente de la viande de brousse pour aider à restaurer la faune dans le paysage. Ce qui laisse croire au ministre provincial de l'Environnement que le CIFOR va contribuer à restaurer la faune dans le paysage de Yangambi. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Rappelons que le CIFOR œuvre dans le paysage de Yangambi depuis 2017 pour faire avancer la recherche forestière, le développement local et la conservation. Objectif visé, soutenir l'entrepreneuriat, l'innovation, la recherche et la gestion des ressources naturelles afin de transformer le paysage de Yangambi en un lieu où les forêts contribuent au bien-être durable des communautés locales.
Actualité internationale.
Nigeria, le funérailles des 11 victimes des attaques de Boko Haram dans les rizières de l'État de Borno ont eu lieu à la mosquée centrale des Abar Mari hier lundi après-midi. Les agriculteurs du village de Karkut se trouvaient dimanche dans leur plantation pour protéger leur récolte des vols lorsque les terroristes ont fait irruption, tuant certains et enlevant d'autres. La Libye multiplie les expulsions d'étrangers après avoir contraint en juin dernier près de 1000 Égyptiens à quitter son territoire à pied. Hier lundi, ce sont des centaines d'autres qui ont été reconduits au poste frontière d'Emsayed par l'organe chargé de lutter contre l'immigration clandestine.
L'invité.
La tenue des élections le 20 décembre prochain s'avère irréversible. C'est le rapporteur adjoint de la CENI qui le déclare, tout en saluant les avancées dans la formation des formateurs électoraux, mais aussi dans l'acquisition du matériel électoral. Paul Mouindo Moulemberi est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Monsieur le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de clôturer la deuxième session des formations en cascade. Dans 10 jours, c'est le début de la campagne électorale. Vous pensez qu'il y aura suffisamment de temps pour que ces formateurs, des formateurs, puissent aussi à leur tour former les autres agents des bureaux de vote?
Tout est bien chronométré. Et comme vous le savez, vous venez même de le constater, aujourd'hui nous sommes le 6. Il était prévu que nous puissions clôturer le 6 aujourd'hui. Nous avons respecté notre date. Et là, nous sommes dans les chefs-lieux des provinces. Et après ici, dans les 5 jours qui suivent, cette formation va se dérouler dans les antennes. Donc là, c'est dans tous les territoires de notre pays. Pour nous, le temps est respecté. Notre calendrier est scrupuleusement respecté. Et au jour de l'élection, tout sera en ordre.
Est-ce que vous avez aussi suffisamment avancé au niveau de l'acquisition des kits électoraux, des machines à voter? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Je pense que hier, vous l'avez constaté, on a réceptionné les urnes. Il n'y a pas longtemps, vous aviez vu vous-même comment on était en train de réceptionner les kits que nous appelons actuellement DEV, ça veut dire les dispositifs électroniques de vote. À l'heure où je vous parle, nos entrepôts sont totalement plein de matériel et nous sommes donc à plein déploiement. Et donc c'est pour vous dire que non simplement sur le plan humain, nous formons nos agents, mais sur le plan logistique, également le travail s'est poursuivi sans désemparer. Il y a également des matériels que nous devions recevoir de l'étranger. Nous avons des ponts aériens qui se font au moins chaque semaine.
Et la RDC, un pays à la dimension d'un continent, mais avec un déficit criant en infrastructure. Structures routières notamment, comment comptez-vous vous y prendre pour acheminer tous ces matériels dans tous les recoins du pays?
Bien sûr, cela fait partie de nos défis. Nous avons un défi important qui est le défi infrastructurel, nous avons le défi sécuritaire, mais chaque institution, pour atteindre ses objectifs, doit se mesurer devant ces défis-là. Et la CENI a toujours été à la hauteur, n'est-ce pas, de ses tâches. Et elle finit par remplir sa mission. Et vous l'avez constaté, l'enrôlement, nous l'avons fait. On avait déployé les kits d'enrôlement sans problème. Et nous avions également fini la cartographie sans problème avec les mêmes infrastructures. Nous sommes convaincus, avec toute l'expérience que nous avons, nous allons faire avec et les élections vont avoir lieu.
Avez-vous l'intention de recourir notamment aux moyens logistiques de la MONUSCO?
Vous savez, l'enrôlement dans certaines zones avait bénéficié d'un appui logistique de la MONUSCO. Et donc, nous pensons que leurs équipements pourront bien sûr nous aider. Mais déjà, le gouvernement nous donne beaucoup, en fait, nous finance, nous appuie et pour que nous ne puissions pas être en retard. Mais tous les autres appuis des partenaires, nous sommes ouverts pour pouvoir les recevoir.
Est-ce que vous allez utiliser aussi le matériel de 2011 ou 2018?
En fait, nous allons surtout utiliser les matériels du cycle passé parce que, vous savez, cela fait partie du patrimoine de la CENI. Voilà pourquoi nous avons tenu compte déjà du matériel existant que nous sommes en train d'actualiser ou avec des termes techniques, il y a des équipes sur terrain qui travaillent pour essayer de voir ce qui ne va pas, modifier ou changer ce qu'il faut changer. Mais nous allons beaucoup utiliser ce matériel-là. Bien sûr, il y a des nouveaux matériels que nous avons également acquis parce qu'il fallait, par exemple, changer le logiciel. Sur base d'un état des lieux que nous avions fait, nous avions répertorié tous ces cas, les commandes avaient été effectuées et là, nous sommes à l'étape de réception de tous ces matériels manga.
La toute dernière question, quel message adressez-vous surtout aux sceptiques, ceux qui ne croient pas encore à la tenue effective des élections le 20 décembre prochain?
Ils doivent comprendre que la CENI est totalement engagée à donner à la République un processus transparent, crédible, apaisé et dont le résultat devrait être accepté par tous. On essaye de tout faire pour y arriver, mais le gouvernement a été vraiment alerté pour que les moyens nous soient davantage donnés parce que à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas droit d'avoir des retards de paiement. Tout doit nous être donné à temps parce que chaque minute de retard a un impact très significatif sur le plan financier, logistique, et ça peut avoir des impacts incalculables.
Paul Mohindo, je vous remercie.
Merci également.
Et c'était notre invité, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo Moulemberi s'entretenait avec Michel Kifindangoy. Fin de ce journal qui a été supervisé par Martin Seboudjangoué et coordonné par Élisée Tikota, Pierre Diassounois, la mise en onde. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.